Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à la galerie Mola pour la présentation par Pierre Petit d'un ouvrage qui vient d'être réédité chez l'éditeur Pleine Page à Bordeaux. C'est un ouvrage d'entretien. Il est intitulé « Moi, petit vampire de Molinier ». Et il s'agit d'un assez long entretien avec Michel Sesquès, qui a été l'un des derniers modèles du peintre et photographe bordelais. Pierre Petit, nous nous connaissons depuis une quinzaine d'années, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous nous sommes rencontrés autour de l'œuvre de Pierre Molinier. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de cet artiste en France, l'auteur d'une biographie que vous avez publiée déjà il y a un certain nombre d'années grâce à Jean-Jacques Pauvert.
En 92, ça commence à dater, commence à, n'est-ce pas
à faire. Et je sais que vous suivez cet artiste avec beaucoup de rigueur et de minutie. Vous savez quelle est la photo, le photomontage, le tableau qui est vendu, à quel prix, à quelle cote. Vous suivez cela avec beaucoup d'attention. Mais pour ma part, j'aimerais que vous nous rappeliez qui était cet artiste. J'ai dit auteur de photomontage, de photographie, peintre. Il vivait à Bordeaux, pas très loin d'ici, rue des Fossés, au numéro 7. Aujourd'hui encore, il a une réputation un peu sulfureuse, mais voilà quelqu'un qui est reconnu, qui est un artiste célébré, dont la cote commence à atteindre, non pas des sommets, mais des montants tout à fait respectables. Pouvez-vous nous le présenter brièvement ?
Oui, sa cote est effectivement en train de devenir très élevée. Par exemple, lors de la vente de la collection Emmanuelle Arsan, qui était une de ses amantes, la fameuse Emmanuelle des films des années 60, environ 200 photomontages ont été vendus, et le photomontage le plus emblématique de Molinier, celui où il se représente en chaman, a été vendu 22 000 euros. Un photomontage. Un second qui était légèrement moins impressionnant par sa mise en page a été vendu 18 000 euros. Vous voyez qu'on commence à être dans des chiffres tout à fait notables. Voilà pour la notoriété de Molinier. Du côté des tableaux, évidemment, ces tableaux aujourd'hui sont inaccessibles simplement parce qu'il en a. Je parle des tableaux érotiques parce qu'il en a peint relativement peu, probablement moins d'une centaine, à peu près 80. Et la dernière vente d'un de ces tableaux érotiques, c'était quand même 90 000 euros. Donc nous commençons à être avec un artiste qui a une cote internationale qui n'est pas négligeable, loin de là.
Alors, si vous me permettez, Pierre Petit, cet artiste, pendant longtemps, pour vivre et pour payer ses factures, était peintre en bâtiment. Il avait une petite entreprise. Et c'est quelqu'un qui faisait donc à côté de la peinture. Et vous allez pouvoir me corriger. Il a peint peut-être 700, 800, 900 tableaux néo-impressionnistes. Et vous-même, me semble-t-il, par la réponse que vous m'avez apportée, vous suggérez que le cœur de son œuvre picturale est constitué par moins d'une centaine de tableaux dont le motif est plutôt érotique.
Oui, c'est à peu près cela. Disons entre 900 et 1000 tableaux du dimanche, des paysages et également des portraits. C'était un très grand portraitiste. Il a fait plusieurs dizaines de portraits tout à fait extraordinaires. Je pense immédiatement à Tapouska. Il était très raciste et malgré tout, il a fait des portraits de gens noirs tout à fait extraordinaires. Un noir avec un chapeau défoncé qui est quelque chose d'absolument exceptionnel. Également, c'était un excellent peintre de paysages. La plupart de ses tableaux sont des paysages de la période post-impressionniste, de la période néo-impressionniste.
Oui, parmi ces très beaux portraits, pour ma part, j'ai un coup de cœur pour le portrait de Françoise, de sa fille, un portrait ovale, qui est assez connu. Cette peinture, est-ce que c'est par cette peinture que Molinier est passé à la postérité, est devenu un artiste répertorié comme étant un peintre important de la seconde moitié du XXe siècle ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas cette période-là qui a donné sa gloire à Molinier. Ce sont ces frasques sexuelles et la transposition picturale de ces frasques sexuelles qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier que, en dehors de ce très petit nombre de tableaux érotiques qui ne se trouvent aujourd'hui que dans des collections privées, dont pratiquement aucun musée n'en possède. Il y en a probablement un en Suède et probablement un en Israël, des tableaux de la période érotique, mais des tableaux qui ne sont pas encore aussi érotiquement marqués que ceux des années 60-75. En dehors de cela, il est surtout connu aujourd'hui pour sa photographie.
Alors, je pense qu'il est bon aussi de rappeler, je ne cherche absolument pas à vous contredire, c'est vous le spécialiste de l'œuvre de Molinier, je pense qu'il est bon de rappeler que André Breton a apprécié la peinture de Molinier et il lui a permis d'exposer à Paris dans les années 50, ce qui n'était pas rien.
Alors, André Breton appréciait à la fois les tableaux de Molinier de la première période érotique, c'est-à-dire les tableaux des années 55 à 50, oui, 51 à 55, mais aussi ses photomontages. Molinier a inondé, a bombardé André Breton de ses premiers grands photomontages qui ont très impressionné André Breton.
André Breton a été le propriétaire d'un tableau célèbre intitulé Comtesse Midralgar. Et sauf erreur de ma part, ce tableau a été d'ailleurs vendu aux enchères à Drouot lorsque la collection Breton a été dispersée. Je ne me trompe pas.
Oui, toute la collection, Breton contenait quand même pas mal de choses de Molinier. Hein. Il y avait de nombreux photomontages et il y avait 3, 4 ou 5, je ne sais plus, tableaux de cette première période. La période où l'érotisme n'est pas encore déchaîné, c'est-à-dire que les bouches ne sont pas hurlantes, les chairs ne sont pas encore trop vivides. C'est un art encore un peu un art érotique encore un peu sous le boisseau. Lorsque Molinier va se déchaîner dans l'érotisme, Breton va se retirer et va couper les ponts avec Molinier. Notamment, Molinier était en train de travailler dans les dernières années où il fréquente André Breton. Molinier était en train de travailler sur son tableau le plus célèbre, « Ô Marie, Mère de Dieu ». C'est un tableau où le Christ est en croix et qui est entouré de deux femmes qui lui font sexuellement des choses très agréables. Et là, il n'y a aucune pudeur dans le tableau. Ce sont des fellations, ce sont des pincements. Et ce tableau, Molinier voulait l'exposer à une exposition dont André Breton était responsable. Et Breton s'est retiré. Il n'a pas voulu exposer ce tableau. Alors Molinier n'a rien trouvé de mieux que de le proposer au Vatican pour... Ô Marie, Mère de Dieu, pour qu'il soit placé dans les caves du Vatican, aurait dit Gide, et qu'il soit dans l'enfer dans l'enfer du Vatican, il n'a jamais reçu de réponse du pape de l'époque.
Vous en savez plus que moi. Je crois que ce tableau a appartenu à Anel Koek et à Peter Gerson.
Alors, ce tableau représente donc le Christ en croix et les deux femmes qui sont représentées sur ce tableau, c'est d'un côté Emmanuelle Arsan, celle dont nous parlions tout à l'heure, qui est décédée il y a peu de temps et qui a donc été la célébrissime égérie du cinéma érotique des années 60 à peu près.
Je me permets de vous corriger, le film est de 73, si mes souvenirs sont
73,
bons. C'est 73.
73, oui.
Oui, énorme oui, succès, oui, il oui, fait oui. La couverture de l'Express, 1 million d'entrées.
Oui, c'est un succès planétaire, hein, oui. Qui aujourd'hui est complètement oublié. Plus personne, sauf de notre génération, plus personne n'a entendu parler d'Emmanuel. Donc, dans le tableau de Molinier, au Marie-Mère de Dieu, il y a Emmanuel et il y a Anel Koek, qui est une Allemande qui avait un parent dans le Pays Basque et qui passait souvent par Bordeaux et elle s'arrêtait voir Molinier. Pourquoi Anel Koek ? C'était une fétichiste des jambes. Et Molinier étant lui-même fétichiste des jambes, bah, ils se sont très bien entendus et elle a continué à le voir pendant près d'une dizaine d'années. Hein. Elle a fait le voyage très régulièrement pendant une dizaine d'années et ils avaient entre eux des séances qui ne devaient pas être dénuées d'intérêt sexuel.
Sur le plan artistique, on peut signaler à nos auditeurs que Anel Koek fréquentait le milieu des actionnistes viennois.
Voilà. Elle a participé à des actions du théâtre Orgien Theater de Munich et elle est photographiée en train d'être torturée, si on peut dire, sur les flancs d'un mouton éventré. Et ces photos ont été envoyées à Molinier et Molinier les a un peu retouchées en ajoutant en dessinant des épingles dans les chairs de ce tableau et des gouttes de sang qui dégoulinaient de ses épingles. C'était quand même assez provocant et assez violent. Anel Koek a d'ailleurs finalement acheté ce tableau au Marie-Mère de Dieu. Elle l'a acheté, elle l'a payé à Molinier et elle l'a emporté à Francfort où elle a habité pendant un certain nombre d'années. Je suis allé la voir à Francfort, je suis allé voir ce tableau que j'avais vu en train d'être peint par Molinier à Bordeaux et qui avait disparu par la suite. Et je l'ai revu lorsque j'ai interviewé Anel Koek pour la biographie.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que au moment où Pierre Molinier est en relation avec André Breton, Molinier est un peintre, mais aussi il crée des photomontages. Est-ce que vous pouvez nous préciser des choses que nous ignorons? Est-ce que la peinture a précédé la photo et les photomontages, ou bien est-ce que ces pratiques artistiques ont été menées de front par Molinier ?
Alors, pendant sa période érotique, il y a un mélange des deux. Il fait des tableaux érotiques et il transpose certaines images par la photo. Et puis, peu à peu, le temps qu'il mettait pour faire un tableau était phénoménal. Il gardait un tableau 4 ou 5 ans, 3, 4, 5 ans. Et il le reprenait, il le retouchait. Il faisait, en gros, 4 ou 5 tableaux par an, c'est tout. Donc, il savait que sa peinture ne toucherait que très peu d'amateurs. Et il s'est mis lentement à faire de la photo. La photo était un autre médium pour lui. L'âge venant, ses mains n'étant plus aussi expertes et aussi agiles pour peindre, il s'est tourné de plus en plus vers la photo. Et en plus, la photo lui permettait de diffuser abondamment ses images, ses idées, ses fantasmes.
Est-ce que ces photographies, il les vendait ou est-ce qu'il avait tendance à être généreux et à les donner ?
Non, oui, il les vendait, mais enfin, c'était ridicule. Non, il les donnait. La plupart de ses photos ont été données. S'il en a vendu, c'était probablement exceptionnel.
Donc, il vendait sa peinture, y compris la peinture du dimanche ?
La peinture du dimanche, il la vendait, oui. Les portraits, il les vendait. Sa peinture érotique, il la vendait aussi. Hein. Le dernier tableau, celui de Gachté Anelka, qu'il a vendu, il a vendu, à l'époque, on disait 1 million. Il a vendu 10 000 francs. Ces derniers tableaux se vendent aux environs de 8, 9, 10 000 francs. Oh, c'était un homme qui vivait de peu, qui avait l'habitude d'une vie très spartiate. Il mangeait peu, il ne buvait pas. Ses seules dépenses, il vivait dans un appartement extrêmement modeste.
C'était un 4-pièces, je crois.
Alors, c'était un 4-pièces, et là, on va arriver au petit vampire.
Oui, tout à fait.
C'était un 4-pièces qu'il sous-louait. Mais comme il vivait très modestement, un tableau, la vente d'un tableau, dans les derniers temps, 5 000, 6 000, 8 000 francs, était suffisante pour, probablement avec la toute petite retraite qu'il avait, était suffisante pour lui assurer le quotidien.
Alors justement, il habite cette rue du Fossé. Il est locataire, il n'est pas propriétaire de son
appartement. Il est locataire, oui.
C'est un 4-pièces. Il le sous-loue. Et dans la rue, lui habite le numéro 7. Dans la rue, il y a une jeune femme et sa mère. Sauf erreur de ma part, elles habitent le 6. Et,
en face de chez lui.
Oui. Il entretient des relations de voisinage. Il est le monsieur qui dit bonjour à tout le monde.
Qui est très poli, c'était un personnage tout à fait d'une correction irréprochable, toujours habillé de bleu marine très foncé ou de noir. Toujours en costume lorsqu'il était dans la rue. Rien ne transparaissait de ses fantasmes, absolument rien. Bien oui. qu'il mît de temps en temps des sous-vêtements sous son costume, mais... Rien ne transparaissait.
Oui, le modèle Michel Sesquès et votre travail, vous tordez tous les deux le cou à une légende selon laquelle Molinier se promenait dans le quartier Saint-Pierre habillé en femme.
Jamais, jamais, jamais. Habillé en femme peut-être, mais sous le costume qui cachait la totalité de ses attifiaux fantasmatiques.
Oui, la lingerie féminine, s'il la portait sur lui, elle était sous le vêtement, costume absolument. Masculin, mais il n'y avait pas un transvestisme assumé et provoquant au point de susciter des réactions violentes de la part de tel ou tel.
Bien sûr. Également, Molinier recevait chez lui... a reçu chez lui plutôt de temps en temps quelques couples pour des ébats érotiques, mais ce n'était pas une habitude. On a dit que Molinier, son appartement était un lieu de perdition, peut-être, mais certainement pas avec une fréquentation courante des Bordelais. Il y a eu quelques couples qui sont venus. Bien sûr, il y avait des modèles qui venaient régulièrement, mais certainement pas une fréquentation courante. Une autre idée à laquelle il faut tordre le cou et qui réapparaît dans tous les ouvrages, tous les articles sur Molinier, contre laquelle je me bats en permanence, c'est à sa mort, on dit, est inscrit sur sa porte, la clé est chez le concierge. Malheureusement, pour Molinier et pour beaucoup de Bordelais, il n'y a pas beaucoup de concierges à Bordeaux. Surtout à cette époque-là, c'était un immeuble ancien, en état de décrépitude, et il n'y avait pas de concierge. Hein. C'était un escalier presque en ruine. De toute façon, moi, j'ai eu les photos et je possède les photos de la porte de Molinier et de ce qui était inscrit, et cette inscription n'y est absolument pas.
Vous possédez, je donne cette précision, vous possédez les photos prises par la police.
Je possède un jeu de photos de l'identité judiciaire, c'est-à-dire les 15 photos qui ont été prises lors de son suicide. Également les photos du corps, les photos, toutes les photos qui ont été prises dans l'appartement. Peut-être que là encore, il faut ajouter une chose. Il n'y a pas de mise en scène de la mort de Molinier. On a dit Molinier a fait une mise en scène extraordinaire pour sa mort. Sa mort est pitoyable. Il est en chaussettes, en grosses chaussettes de laine. Évidemment, le sexe à l'air. Et il se tire une balle dans la bouche. Et puis c'est tout. Le cadavre est très présentable. C'était un excellent amateur d'armes. Il faisait d'ailleurs ses balles lui-même. Il moulait ses balles lui-même. Il savait comment en tirer. Et il s'est tiré une balle dans la tête qui est ressortie par ici, qui n'a fait aucun dégât. Enfin, aucun dégât pour la médecine. Pour les étudiants de médecine ont certainement été très satisfaits du corps que leur a donné Molinier.
Alors, si vous permettez, nous revenons au modèle et à Michèle Seskès. C'est une voisine, elle est très jeune.
Ah oui, elle a dans les 20 ans.
Tout juste.
Oui, dans les 20 ans, c'est ça, oui.
C'est une ouvrière.
C'est une ouvrière dans la confection. Elle travaille dans une maison bordelaise qui a disparu aujourd'hui, la maison Cousin, qui faisait essentiellement des costumes d'hommes.
Elle vit avec sa mère.
Elle vit avec sa mère, donc dans un premier temps, lorsqu'elle est enfant, en face de l'appartement de Molinier. Puis Molinier a un appartement trop grand pour lui et il leur loue deux pièces qui sont d'ailleurs séparées par un couloir. C'est pas très pratique, mais il y a, je pense, une chambre et une chambre et une cuisine, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais vu cette partie de l'appartement.
Et là, une relation... Vous allez nous éclairer quant à sa nature. Une relation se noue petit à petit, pas immédiatement, me semble-t-il.
De la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu? Et puis, tu es bien jolie aujourd'hui. Et petit à petit, Molinier se met à parler avec elle. Elle lui parle de ses aventures amoureuses avec des jeunes gens du quartier.
Peu brillante.
Et Molinier se dit quand même, cette jeune fille qui est bien jolie, qui a de belles jambes, c'est une chose totalement essentielle, qui a de très jolies jambes, devrait quand même être éduquée pour ne pas perdre sa jeunesse dans les bras de gens qui ne s'y connaissent pas.
Alors, je me permets d'indiquer des choses que j'ai apprises en vous lisant. Il y a 46 ans de différence d'âge entre Michèle Seskès et Pierre Molinier. 46 ans, ce n'est pas rien. Et Pierre Molinier apprécie chez Michèle donc ses jambes, vous l'avez dit. C'est un caractère qu'on retrouve à peu près chez tous les modèles de Molinier. Molinier est sensible aux jambes des femmes.
Ah, c'est un fétichiste des jambes. Cet intérêt pour les jambes commence dès son enfance. Son enfance, c'est à Agen. Son père est peintre, décorateur. Sa mère, son père ne s'occupe pas beaucoup de lui. À cette époque-là, les pères n'étaient pas très intéressés par les enfants. C'était les mères et l'entourage féminin qui s'occupaient des enfants. Donc sa mère est couturière. Sa tante est repasseuse. Elles ont un petit atelier à Agen, un petit atelier de couture. Et Molinier avait pris l'habitude de se glisser sous les jupes des femmes qui travaillaient. Et, il était au chaud, il était très intéressé par les jambes et il caressait les jambes sous les jupes des ouvrières de l'atelier. Et sa mère protestait en disant « c'est un petit diable ». Le mot n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. « C'est un petit diable » et c'est resté. cette diabolisation lui est restée. Et puis, lorsqu'il a peut-être une dizaine d'années, c'est sa sœur qui devient son centre d'intérêt, qui, elle aussi, a de très belles jambes. Et elle est c'est tellement un centre d'intérêt qu'un jour, il la plaque contre le mur du jardin à Agen pour lui caresser les jambes et les cuisses. Son père arrive, inutile de vous dire que ça s'est plutôt mal passé. Il a pris ce qu'il appelle une paire de tartes et il n'a jamais pardonné à son père cette punition qui était une punition qui traumatisait sa recherche de l'androgyne, puisqu'il se sent à la fois homme et femme, et il essaie de retrouver dans les cuisses de la mère, de la tante, des petites ouvrières et de sa sœur, il essaie de retrouver cette part de féminité qu'on ne lui a pas donnée techniquement à sa naissance. Donc, ça va être très important, ce traumatisme de la paire de baffes de son père qui va le marquer jusqu'à la fin de ses jours. Et malheureusement, pour lui et pour sa sœur, en 1918, la fameuse épidémie de grippe espagnole, sa sœur meurt de la grippe espagnole. Alors là, s'agit-il d'une légende ou s'agit-il de la réalité? Nous ne le saurons jamais. Il s'enferme, dit-il, dans la chambre mortuaire de sa sœur. Il a 18 ans, hein, 1918, il est né en 1900. Il s'enferme dans la chambre mortuaire de sa sœur et il la photographie. Et nous avons les photographies. Vous voyez, il s'intéresse déjà à la photographie. À partir de 16 ans, il s'intéresse à la photographie. Et il photographie sa sœur, une très belle photographie d'ailleurs. Elle est habillée en robe de communiante blanche. Il la photographie, puis il dira plus tard. Alors là, vous prendrez ce que vous voulez dans le menu. Il dit, je me suis étendu sur elle et j'ai joui sur sa robe de première communion. S'agit-il d'une fanfaronnade à une période où il a 60 ans au moins et où il fanfaronne pour se créer une image? Nous ne le saurons jamais. Mais enfin, le fantasme est là tout de même. Hein.
Je me permets à ce propos d'indiquer deux choses. C'est-à-dire que d'abord, la photographie mortuaire est courante à l'époque. Les défunts sont photographiés dans leurs plus beaux atours. C'est quelque chose qui n'est absolument pas perçu comme étant malsain. On garde un souvenir du mort comme s'il était vivant. C'est quelque chose qui est tout à fait courant dans les familles, la première chose. La deuxième chose, en ce qui me concerne, mais je ne veux pas imposer mon point de vue, en ce qui me concerne, peu importe que Molinier ait un peu arrangé l'histoire concernant sa sœur et le plaisir éventuel qu'il aurait pris à ce moment-là. Je tiens juste à signaler une chose, c'est que ce motif de la jouissance sur le corps de la sœur a fourni matière à une nouvelle à Pierre Bourjade. Pierre Bourjade ne connaissait pas Pierre Molinier. Il a imaginé ce motif pour une nouvelle. Et après avoir écrit cette nouvelle, il s'est rendu compte que Molinier disait à peu près la même chose. Et c'est on va dire, ce fantasme, ce motif qui a été à l'origine de l'amitié entre l'écrivain Pierre Bourjade et l'artiste, puisqu'ils se sont fréquentés et Pierre Bourjade, dont je salue la mémoire, Pierre Bourjade a été propriétaire d'un beau tableau de Molinier.
Donc, vous voyez, nous avons les femmes comme l'obsession de la femme et des jambes de la femme commence très tôt.
Et alors, si vous me permettez, Pierre, fixation sur les jambes, mais lui-même, aime ses jambes et il estime que, ma foi, il a des jambes de femme, aussi belles que les jambes de les plus belles jambes de la plus belle femme.
Ah, il a des jambes magnifiques. D'ailleurs, tous ses photomontages où il se photographie lui-même le prouvent. Et ce sont des photomontages pour les jambes qui ne sont pas retouchées. Il n'y avait pas Photoshop à cette époque-là. Bien qu'on puisse retoucher assez facilement des photos, et il a retouché certaines photos. Mais d'ailleurs, il n'a pas retouché les photos pour les embellir ou pour embellir les corps. Et s'il les retouche, il les retouche pour une raison purement esthétique. Pas pour rendre les corps, comme on le fait aujourd'hui, plus beaux, mais parce qu'il y a trop de blanc ou parce que les masses ne sont pas suffisantes ou sont trop importantes, mais pas pour rendre les corps plus beaux.
Et sauf erreur, là aussi, il me semble que parmi les photomontages, non seulement il fabrique ses photomontages avec des éléments de photos de ses propres gens, mais il y a des garçons qu'il fréquente, qui appartiennent au petit cercle d'amis qui fréquentent Pierre Molinier, qui peuvent poser, et il y a des jambes d'un de nos amis qui figurent sur le photomontage. Je me trompe ?
Oui. Il y a des jambes d'hommes, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a essentiellement des jambes de Jean-Pierre Bouixou.
Je ne voulais pas citer le nom de Jean-Pierre, que je salue.
Ça ne le gêne absolument pas. D'ailleurs, un des deux ou trois des plus beaux photomontages de Molinier comprennent des jambes et la tête de Jean-Pierre Bouixou. Jean-Pierre Bouixou est à cette époque-là un étudiant bordelais, un peu provocateur, ce qui plaît beaucoup à Molinier. Et il a d'ailleurs énormément écrit sur Molinier. Il a énormément défendu les idées de Molinier, tout ce qui était déformé et détourné, notamment par la critique parisienne. Et encore aujourd'hui, Jean-Pierre Bouixou est un défenseur de l'art de Molinier.
Alors, je reviens à la rencontre qui donne matière à notre entretien de Pierre Molinier avec Michel Sesquez. Relation de voisinage, relation du quotidien, petite attention de Pierre Molinier à l'endroit de Michel, mots gentils, et arrive le moment, un peu surprenant pour elle, où Molinier lui propose de poser.
Oui, elle commence par poser habillée. Et puis la confiance s'installe et peu à peu, elle commence à se dénuder et les photos deviennent de plus en plus érotiques. De plus, Michel a des tendances légèrement sadiques. Molinier n'est pas un sadique. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à imposer la douleur à l'autre. Mais il veut bien s'imposer une douleur légère à lui-même. Donc il est masochiste. Ce n'est absolument pas un sadomasochiste. C'est un masochiste, alors que le petit vampire, lui, est un être sadique. Car elle dit, moi, je veux faire mal. Vous pourrez lire ses déclarations, c'est clair et net. Elle veut faire souffrir. Mais elle ne fait souffrir que dans la mesure où l'autre accepte cette souffrance. Et pour Molinier, il ne lui faut pas grand-chose. Hein. On lui tord les pieds, on lui pince les bouts des seins. C'est largement suffisant.
Mais, excusez-moi, je vais faire mon puritain. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, je ne vais pas dire qui ne va pas, mais il y a un mélange des genres. Il y a un modèle, et puis, en vous écoutant, on s'aperçoit qu'il y a une relation charnelle et peut-être aussi affective qui se noue entre l'artiste et le modèle.
Ah oui, affective absolument. Hein. C'est une sorte de père. Michel, le petit vampire, n'a pas de père à cette époque-là. Le père, je ne sais pas ce qu'il est devenu, le père a disparu, il n'y a que la mère. Donc Molinier prend la place du père, oui, absolument.
Un peu incestueux.
Ah oui, légèrement, légèrement incestueux. Et peu à peu, Molinier découvre cette tendance, cette tendance légèrement perverse de Michel, et il en tire profit. Il en tire profit parce qu'elle est capable de lui procurer une jouissance physique. Il n'y a jamais eu, elle me l'a répété de nombreuses fois, il n'y a jamais eu de pénétration physique entre eux. Mais il y a eu manipulation, des caresses, c'était essentiellement du domaine de la caresse, des caresses un peu appuyées, disons, et des caresses qui pouvaient être douloureuses pour Molinier, mais d'une douleur acceptable.
Alors, si ma mémoire ne me joue pas de tour, Molinier a eu différents modèles importants.
Emmanuel Arsan,
oui.
Annel Koek,
oui.
Et Le Petit Vampire, ce sont les trois grands modèles. Après, il y a des petits modèles qui apparaissent, une photo, deux photos, alors qu'avec Emmanuel, Annel et Michel, là, ce sont des séries de photos, ce sont des œuvres complètes.
Précisez-nous, il y a eu... un attrait très fort. Je pense que cet attrait est resté intellectuel et fantasmatique pour Joyce Mansour.
Ah oui, il rencontre Joyce. Joyce Mansour était une poétesse égyptienne excessivement riche qui avait de très beaux appartements, plusieurs appartements à Paris, et qui était vraisemblablement l'amante, enfin une des amantes d'André Breton.
C'est possible.
Nous n'étions pas dans les alcôves, mais très vraisemblablement. Et c'est Molinier Breton qui a fait connaître, qui les a fait rencontrer. Et Molinier était évidemment follement amoureux de cette très, très, très belle femme, très belle égyptienne. Il était follement amoureux. Il a fait un dessin magnifique, extraordinaire, oui. Magnifique, magnifique dessin. Mais elle n'apparaît nulle part d'autre que dans ce dessin. Là, il y a un détachement. Il y a une admiration... pour l'artiste poète également. Mais Molinier a dû s'effacer devant l'impériosité d'André Breton. André Breton passait le premier.
Et qu'en est-il de la relation de Molinier avec Cécile qui tenait le corset qui tue ?
Oui, Cécile Zébi. Alors, c'est rue des Fossés, il y avait une boutique que tenait une femme, à nouveau une très très belle femme, sculpturale, magnifique, femme qui avait de très belles jambes à nouveau. Les jambes sont toujours le point central des relations avec Molinier. Et également, elle aimait beaucoup les chats. Et elle a amené ce supplément d'intérêt vers Molinier. Cécile Zébi n'a eu probablement aucune relation véritablement physique et sensuelle avec Molinier. C'était une image magnifique pour lui.
Alors... c'est avec Emmanuel, c'est avec Annel et c'est avec Le Petit Vampire que, à vrai dire, Molinier a eu, je dirais, ses égéries, ses modèles préférés. Il a puisé dans leur relation une partie de sa création, un ressort supplémentaire pour sa création. Et je voudrais vous entendre sur quelque chose. Il y a, sauf erreur de ma part, une photographie, je crois, une photographie, peut-être plusieurs. Ma mémoire me met en tête une seule photographie intitulée « L'artiste, le modèle et le fétiche ».
L'artiste... non, ce n'est pas l'artiste, le modèle, c'est le peintre.
Ou le peintre, le modèle et le fétiche. Il y a les trois éléments.
C'est ça. Alors, dans ces photographies, c'est une série de photographies, pas de photomontage, de photographies où il est dans son atelier. Il est debout, habillé en grande tenue, c'est-à-dire en corset, bas résille, corset, et parfois avec un masque. Et à côté de lui, il y a un tableau. Un des tableaux qu'il est en train de peindre. On retrouve à peu près 3-4 tableaux, dont « Ô Marie, Mère de Dieu ». Et certains de ces tableaux, dans certains de ces photos où il y a lui-même le tableau, et il y a le petit vampire. Dans 2 ou 3 de ces photos, le petit vampire apparaît. Elle apparaît discrètement parce qu'elle se trouve en une sorte de chemise de nuit blanche. Et elle se trouve derrière, on ne voit pas son visage. Mais on la voit et je crois qu'elle pince la poitrine de Molinier.
Molinier désigne et appelle au quotidien Michel le petit vampire, mon petit vampire. Hein,
mon petit vampire, oui.
Il utilise le possessif. Bon, du fait de ses pratiques de succion, de pincement, la relation affective peut-être du père à la fille est là. Il y a une relation érotique. Manifestement, cela lui permet de créer beaucoup.
Ah oui, c'est un renouveau dans sa création. C'est un renouveau parce que ces trois femmes se superposent. Il ne voit Emmanuel que 2 fois. Chez Emmanuel, pratiquement tout est purement imaginaire.
Et puis c'est épistolaire, ils ont
une correspondance extraordinaire et très très abondante pendant plusieurs années. Et il va la voir 1 fois à Paris et elle vient le voir 1 fois à Bordeaux. Mais attendez, elle arrive avec le train, le Sud Express de 18h et elle repart le lendemain au Sud Express de midi. Donc, elle vient avec son mari. Ils passent donc 1 nuit dans l'appartement de Molinier. Et ce qu'il s'y passe n'a rien d'extraordinaire. Il y a des jeux de mains, mais il n'y a pas non plus de pénétration. Il ne pénètre aucune femme. Donc, cela reste... C'est tellement peu. Leurs 2 rencontres sont réduite à tellement peu de choses que tout reste purement dans l'intellect. Mais Emmanuel est, comment dire, elle est exacerbée par l'imagerie de Molinier, et Molinier est lui-même titillé par l'écriture d'Emmanuel, qui n'est d'ailleurs pas l'écriture d'Emmanuel, mais l'écriture de son mari. Elle, que j'ai rencontrée par le peu français, elle a été éduquée en Angleterre et en Suisse, elle a un français assez approximatif. En revanche, elle apporte des idées à son mari, Louis-Jacques, tous les 2 sont décédés maintenant. Elle apporte des idées et lui les met en forme et les transmet à Molinier, dans un style et dans un langage d'une très grande classe et très grande pureté. C'est un diplomate dans le domaine de la culture. Il a un passeport diplomatique français, mais il travaille dans le domaine de la culture, pas dans le domaine des affaires politiques. Donc, il y a un jeu de ping-pong entre Emmanuel, Louis-Jacques et Molinier. Et ils se renforcent l'un l'autre, ils s'émoustillent l'un l'autre.
Alors qu'avec Michel, elle est présente.
Elle est présente.
Elle dit dans l'entretien que vous avez recueilli, elle dit que parfois elle est à côté de lui alors qu'il peint. Il est devant son chevalet, il peint, elle est là, elle est présente.
Oui. Et elle n'apporte rien d'autre que sa présence et son corps.
Alors, je trouve que cette relation est, je dirais, exceptionnelle. dans la mesure où c'est une relation affective, peu importe les pratiques, cela ne m'intéresse pas beaucoup, mais affective et en même temps d'une extrême liberté, parce que Molinier sait bien que dans le quartier, il y a des rumeurs, on cancane, ces rumeurs sont désobligeantes à l'endroit de Michel. Il va très sérieusement lui proposer de l'épouser.
Ah, absolument, oui. Il lui propose de l'épouser en lui laissant toute sa liberté de voir d'autres hommes, d'avoir d'autres expériences, pour couper court au ragot du quartier. Michel refuse. Vous verrez pourquoi il refuse.
Oui, on ne va pas le dire, on va laisser.
Elle refuse parce que bon, ben, il y a les cardages, il y a, elle ne se sentait pas à l'aise devant le maire pour épouser un homme. En réalité, pas pour une vraie relation matrimoniale.
Alors, je voudrais, notre entretien va bientôt toucher à sa fin, je voudrais connaître votre point de vue sur l'art de Molinier, que ce soit l'art du photomontage ou l'art pictural de Molinier. Il me semble, vous savez Pierre Petit, que j'aime beaucoup les photomontages et la peinture érotique de Molinier. Concernant la peinture érotique de Molinier, il me semble que l'intérêt de cet artiste réside dans sa capacité à traiter le motif avec des procédés qui sont les procédés de la grande peinture et de la peinture, je dirais, historique, et notamment dans la technique du glacis.
Ah, de la peinture classique, oui, absolument, absolument. Alors, l'histoire des glacis est une histoire à nouveau un peu...
Légendaire.
Un peu légendaire. Il faut en prendre et en laisser, là. Molinier passe d'une peinture extrêmement traditionnelle à une peinture un peu fauve, avant de passer à cet art tout à fait inconnu jusqu'à lui, de déformation des corps et avec des couleurs tout à fait à lui. Il y a un vert véronèse. Eh bien, on commence à parler aujourd'hui d'un vert Molinier. C'est tout à fait stupéfiant. Pour ceux qui ont pu voir les tableaux de Molinier, on a eu quelques aperçus, heureusement, lors de l'exposition de 2005 à la Galerie des Beaux-Arts, mais bien peu en comparaison de ce qu'on aurait pu avoir si l'exposition avait pris la dimension espérée à l'origine.
C'est une, vous voulez dire si je n'avais pas été viré.
En gros, oui.
Oui, si, c'est ça.
Si l'exposition avait eu son plein développement. Et beaucoup de tableaux ne sont pas venus en dernière minute. Et il n'y a pas eu de grands tableaux, des grands tableaux érotiques de Molinier. Mais enfin, on a quand même eu une idée de ce que pouvait être la peinture et la couleur de Molinier. Alors, il y a ce vert extraordinaire, c'est rouge et c'est vert, et notamment le vert. Comment Molinier fonctionne pour faire ses tableaux? D'abord, il lui faut énormément de temps. Il lui faut plusieurs années pour terminer chacun de ses tableaux. Et il utilise une technique qui était une technique employée dans la peinture perse, iranienne, qui est la technique du glacis. Vous prenez une couleur et vous créez un jus extrêmement léger, extrêmement transparent. Vous le placez sur le tableau et dessus, vous mettez un vernis. Sur ce vernis, vous mettez une autre couleur. Vous attendez que le vernis sèche. Il faut en général 24 heures. Et vous mettez une seconde couche d'une couleur différente. Et la transparence de ces deux couleurs avec les deux vernis, puisqu'il y aura toujours un dernier vernis, provoque une sorte de transparence étonnante. Et Molinier reprend cette technique. Il la reprend en mettant sur certains tableaux jusqu'à une quinzaine de couches différentes, ce qui donne une profondeur extraordinaire à ses couleurs. Simplement, nous sommes à la période moderne. Molinier est impatient. Il ne veut pas attendre 24 heures pour que les vernis sèchent. Et il trouve une technique tout à fait adaptée à sa situation. Il utilise son sperme, qui, comme tout le monde le sait dans la vie pratique, sèche très vite, pour,
comme vernis,
en une ou deux heures, tout est sec et il peut remettre une couche dessus. Alors évidemment, est-ce que c'est la réalité? Je crois que personne n'est encore allé analyser chimiquement ces tableaux. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il y a dans ces vernis. Mais bien sûr, il y a là une provocation nouvelle, il y a là une sexualisation, une érotisation de sa peinture. Il dit, je fais des tableaux, lorsque je serai mort, au moins ils sont signés de moi-même, personne ne pourra les contrefaire.
Et d'ailleurs, dans l'entretien que vous avez recueilli auprès de Michel, il est dit qu'il utilisait peut-être son sperme aussi comme un élément du liant pour la couleur.
Oui, très difficile à dire tout ça. Il y a contradiction là-dedans. À certaines personnes, il dit qu'il l'utilise comme liant. À d'autres, il dit qu'il l'utilise, si on peut dire,
comme
nature.
Vernis.
Comme vernis, nature. C'est tout. Nous sommes dans un monde du fantasme et de l'art éthéré. Donc, à chacun d'entre nous, de faire sa propre interprétation et de tirer ses propres conclusions.
Alors, il ne me reste plus que deux questions à vous poser, Pierre Petit. La première concerne l'art du photomontage chez Pierre Molinier. On a l'habitude, quand on lit les critiques d'art, on a l'habitude de trouver un certain nombre de choses, disant que non seulement il y a chez lui une prouesse technique, mais qu'il y a un caractère innovant.
Ah oui, d'abord, il y a une prouesse technique, c'est extraordinaire. Ce photographe n'a pas d'agrandisseur. Il travaille strictement avec par papier contact. Il fait une photo, il obtient un négatif, ce sont des grands négatifs au moins comme ceci. Ce négatif, il le met sur un support bois, il met le papier dessus, il présente l'ensemble à une lampe ou à la lumière du soleil et il obtient son tirage. Alors, c'est stupéfiant parce que lorsqu'il fait des photomontages, il va refotographier plusieurs fois les montages papier, car ce sont des montages papier, il va les refotographier plusieurs fois et on ne voit aucune trace. Les photographes d'aujourd'hui ne savent pas comment il a fait. Il n'y a pas d'explication aujourd'hui. Molinier a emporté avec lui un mystère technique dans la création de ses photomontages. Personne ne sait faire ce que Molinier a fait. Le grand photomontage, la grande mêlée, qui est un photomontage assez grand et qui se compose d'une trentaine, une roue d'une trentaine de jambes, il a dû y avoir une quinzaine de refotographies sans aucune perte de définition. Nous ne savons pas comment il procédait. Nous savons comment il faisait techniquement, mais normalement, il y aurait dû y avoir des pertes de définition dans à chacune des refotographies. Il n'y en a pas.
Voilà qui donne du prix à cette œuvre.
D'où l'explication des prix relativement astronomiques des photos de Molinier, qui sont un très petit nombre. Alors, les photos médiocres, il y en a des centaines et des centaines, mais les très beaux photomontages, il y en a quand même très peu, peut-être une quinzaine, une vingtaine pour chacun, peut-être moins pour certains, pour cette grande roue de la grande mêlée, probablement pas plus d'une dizaine.
Alors, ma dernière question concerne l'entretien que vous publiez. Grâce à votre éditeur, Pleine Page, vous avez révisé et enrichi l'édition initiale. Vous pouvez nous en dire un mot, Pierre Petit ?
Oui, alors, cette seconde édition est due à la défection du premier éditeur, qui était un tout petit éditeur qui commençait sa carrière dans ce domaine-là et qui n'a pas tenu. Nous ne savons pas si c'est financièrement ou psychologiquement. Nous ne savons pas. Nous le connaissions tous les deux. Il a fermé boutique, tout d'un coup, sans crier gare. Donc, seulement peut-être une centaine d'exemplaires de la première édition, qui était magnifique, papier magnifique, reliure à la main. Vraiment un travail exceptionnel. Je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de donner la possibilité aux amateurs et puis aux bibliothèques du monde entier qui le réclamaient, d'avoir ce témoignage disponible. Et je me suis donc adressé à quelqu'un qui, à Bordeaux, avait une bonne réputation, qui a des reins financiers et techniques beaucoup plus solides que le premier éditeur Mon Plaisir. J'ai revu Le Petit Vampire, qui m'a un jour dit qu'elle avait d'autres choses à ajouter. Donc, on a rajouté quelques éléments, quelques explications supplémentaires, peut-être 5 ou 6 pages de plus. Et nous avons ajouté également des photos qu'on a retrouvées. Là, ça a été très difficile car Michel Seskès n'avait pas gardé grand-chose. Elle a tout détruit de Molinier, tout ce qu'elle avait. Ça peut se comprendre. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a préféré ne pas trop garder de séquelles de son aventure avec Molinier. Mais on a retrouvé 4 ou 5 photos de cette époque-là qui correspondent très bien au texte que l'on a réédité.
Alors, je me permets juste une chose, Pierre Petit, avant de vous remercier, de dire que dans votre livre « Moi, petit vampire » de Molinier, vous parlez d'un montage où il s'agit du petit vampire de Michel Seskès, et vous le décrivez, il y a une fiche technique qui décrit parfaitement ce photomontage. On le trouve dans ce recueil « Le chaman et ses créatures ».
Qui est introuvable maintenant.
Voilà, et c'est celui-ci, donc « Méditation vampirique », c'est le petit vampire.
C'est le petit vampire. Alors attention, ici, c'est une version, c'est la version habituelle. Dans la première édition, nous avons ajouté une version complètement différente, enfin pas complètement différente, légèrement différente. C'est le seul exemplaire où Molinier avait dessiné des gouttes de sang coulant des commissures des lèvres du petit vampire. Et c'est l'exemplaire, cet exemplaire avait été donné par Molinier et fait par Molinier pour Jean-Pierre Bouixou. Nous ne l'avons pas reproduit ici pour des raisons financières, parce que les droits d'auteur sont importants. Et lorsqu'on fait des petites éditions comme ceci, eh ben il faut couper partout et rajouter ce photomontage aurait rendu l'édition pratiquement impossible. Mais j'espère que si cette édition se vend bien, quand je veux dire bien, c'est essentiellement les bibliothèques, hein, les spécialistes et les bibliothèques, peut-être que je persuaderai l'éditeur, peut-être que je le persuaderai de faire un jour une autre édition dans laquelle on rétablira, si les finances le permettent, on rétablira ce photomontage dont il y a la description, mais pas l'image.
De toute façon, et pour moi, ce sera le mot de la fin, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra s'attaquer à une édition savante et critique de l'œuvre de Pierre Molinier. Et évidemment, c'est une entreprise
colossale,
mais...
Moi, je travaille dessus depuis 30 ans. J'ai une base de données, par exemple, pour les photos, j'ai plus de 1000 photos de Molinier. J'ai retrouvé plusieurs centaines de tableaux de Molinier. J'ai des fiches techniques sur chaque œuvre qui a été retrouvée, des fiches techniques abondantes. Mais il faut les finances.
Il faut l'éditeur.
Il faut un éditeur.
Et peut-être que grâce à Pleine Page et à votre opiniâtreté, vous créez les conditions, petit
faut,
à petit, de trouver cet éditeur courageux.
Et cela risque d'être très coûteux, malheureusement. Ces éditions...
Restez auteur, ne parlez pas finance, Pierre. Je remercie en votre nom, Pierre Petit. Merci, Pierre.